Jésus proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. » Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Voici ce que l'évangile de Marc commence en nous présentant le ministère précieux de Jésus. Il proclamait la bonne nouvelle. Alors ce matin, je vous propose de continuer notre série qu'on a démarrée il y a déjà quelques semaines maintenant sur l'évangile de Marc. Je vous rappelle quelques mots d'introduction, mais Marc souhaite nous voir comprendre, nous voir saisir qui est Jésus, son identité, son message. Et ce matin, on est dans le chapitre 4, alors on revient un peu en arrière par rapport à l'épisode qu'on a vu avec les enfants il y a 15 jours. Mais le chapitre 4 est un tournant décisif, un moment significatif dans le ministère de Jésus, parce que l'opposition face à son message, face à ce qu'il fait, face à ce qu'il dit, face à ce qu'il montre, grandit et on est dérangé. Et d'ailleurs, on le voit dans le chapitre 3, Jésus est contesté, il y a une tension croissante avec les juifs, notamment religieux, les pharisiens, les chefs religieux. Et c'est une tension qui va aller en grandissant quand on suit l'histoire de Jésus, et notamment par l'évangile de Marc, et qui va arriver à l'arrestation arbitraire et au meurtre de Jésus sur la fin. Si certains le rejettent assez ouvertement, assez rapidement, d'autres ont le cœur prêt, le cœur ouvert, prêt à écouter. Donc on est au chapitre 4, je vous invite à prendre le texte sous les yeux, il y a des bibles derrière si vous en avez pas, et j'aimerais juste voir le contexte du chapitre 4, en tout cas les premiers versets, versets 1 et 2. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Donc on se retrouve là avec Jésus de nouveau et qui va enseigner. D'ailleurs dans le chapitre 4, c'est là où il va nous laisser, c'est une des premières parties où il va nous laisser un enseignement, un certain nombre de choses. Il y a une grande foule, il y a tellement de monde que Jésus est obligé de s'asseoir sur une barque, sur le rivage. Donc là, c'est un moment un peu apaisé dans l'évangile de Marc qui est assez successif, il est plein de l'action. Là, on est dans un moment plus calme, où il y a un échange et un discours qui est donné par Jésus. Je vous rappelle que Jésus enseignait avec une autorité, c'était un des éléments qu'on avait vu, avec une autorité sans égale, et que dont la foule aussi qui était rassemblée pour l'écouter. Et il va le faire en parabole. J'aimerais juste, avant de prendre la lecture, on va la prendre fur et à mesure, un des mots-clés qu'on retrouve dans ce passage, c'est le verbe entendre et tous les parallèles, l'idée d'écouter. Plus d'une douzaine de fois, c'est employé dans notre passage. Pas entendre au sens physique, on a bien écouté ce qui a été dit, mais de le comprendre, de le saisir vraiment dans son aspect spirituel, avec discernement. Et dans ce chapitre, Jésus veut tout particulièrement encourager ses disciples à travers des paraboles. Face à l'opposition qui est en train de se montrer, il veut les encourager à ne pas perdre courage. Et il va le montrer aussi, notamment avec l'épisode de la tempête, où Jésus va montrer « J'ai toute autorité, y compris sur la nature ». Il veut les encourager. Et il va le faire par des paraboles. Et il va le faire à travers de 4 paraboles. Alors, il y en a 4, il y en a des connues. On va aller assez à l'essentiel, mais il y a la parabole du semeur, il y a la parabole de la lampe, il y a la parabole de la semence et celle du grain de moutarde ou le grain de senevé, suivant votre traduction. Alors, explication, c'est quoi une parabole? C'est un style littéraire, mais ça vient de deux mots grecs, bolé, qui veut dire lancer ou jeter, ou mettre. Et du préfixe para, donc parabolé, qui veut dire à côté, le para ça veut dire à côté. Donc l'idée c'est de mettre quelque chose à côté de quelque chose d'autre pour en faire sa comparaison. En fait c'est l'art d'utiliser un exemple de tous les jours pour illustrer une vérité spirituelle. Donc on utilise un exemple qui nous parle pour expliquer une vérité spirituelle. Et c'est Il y a l'idée de communiquer quelque chose de façon simple. Alors, je dis ça, mais dans le texte, il nous dit que certains n'ont pas compris. Bon, voilà. Donc voilà, Jésus donne ici quatre paraboles, quatre images pour illustrer quelque chose, et il va parler, c'est pour cela, du royaume de Dieu, de la nature du royaume de Dieu. Et quand on parle de royaume de Dieu dans Marc, c'est l'idée, le règne de Christ, c'est-à-dire la venue de Jésus dans la vie, dans le monde, il s'est incarné. Il y a un message qu'il veut, un message de réconciliation. Il veut régner sur nos cœurs. Il veut montrer qu'il a pouvoir sur tout. Quand on entend royaume de Dieu, il y a cette dimension-là, et il y a là, bien sûr la dimension aussi maintenant de la vie avec le Seigneur en tant qu'Église, où Christ règne, où on reconnaît sa royauté, où on reconnaît qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Alors je vous propose de regarder notre première parabole, la parabole du semeur, et c'est les versets 3 à 20. Un gros morceau, mais un épisode qu'on connaît. Écoutez, voilà comment Jésus. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et se développait, avec un rapport de 30, 60, 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entourèrent avec les douze disciples, l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Donc la parole, on le voit bien que c'est la question du mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne soit pardonné. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprenez-vous toutes les autres? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée, et dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et l'enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux, et quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, et ce sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole. Mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et la passion en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit, avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour un. La parabole du semeur. Alors j'ai donné comme titre à cette portion semons, qu'importe le terrain. On a une scène très commune de l'époque ici d'un semeur avec son sac qui est en train de semer des grains dans son champ. Il plonge la main dans le sac et d'un geste assumé répand la semence sur la terre. Et on le voit, Jésus nous dit que cette semence tombe dans quatre types de terrain. Premier terrain, vous l'avez entendu, c'est le chemin. Une terre bien piétinée, dure, touchée par le soleil. Alors c'était courant à l'époque que les champs étaient parsemés de chemins pour traverser les champs, pour aller d'un point A à un point B. Et on voit qu'ici, les graines tombées sur ce chemin sont picorées par des oiseaux. On a déjà vu tous souvent un tracteur qui sème et puis les oiseaux qui sont derrière en train de picorer déjà les premiers grains. C'est un peu ça l'image. Le deuxième terrain, c'est avec les cailloux. Une terre, oui, il y a une terre, il y a une bonne terre, mais il y a des cailloux, il y a une couche en profondeur, et on entend que il n'y a pas beaucoup de terre, et les racines ne vont pas en profondeur, et la plante, elle pousse plus rapidement vers le haut. Elle lève vite, mais ne résiste pas au soleil. Elle n'a pas puisé en profondeur ce dont elle a besoin. C'est le verset 5 et 6. Le troisième terrain, avec des ronces. Alors pour ceux qui ont un jardin, Qu'est-ce qui pousse toujours plus vite? Malheureusement, les mauvaises herbes. Et quand on coupe le gazon, qu'est-ce qui sort le plus vite? Les pissenlits. Ça repousse en une nuit, on dirait. Ben là, on a cette image-là. Il y a une mauvaise herbe et il y a plutôt l'idée d'une mort lente. Hein. Les mauvaises herbes, les ronces étouffent la semence. Plus de fruits. Et pas de fruits, d'ailleurs. Et enfin, dernier terrain, la bonne terre noire, terre molle, pas dure, terre profonde, qui permet aux racines de descendre, une terre libre de mauvaises herbes, de cailloux, et qui lui permet de pousser, la bonne terre fertile des jardiniers et des agriculteurs. Hein. Et la semence explose à volonté et donne des fruits. Et on le donne avec un rendement, hein, de belles tomates. Ouais, on plante une et puis on en a des... Je sais pas combien, quand on plante un grain de tomate, combien on a de tomates sur notre plant, mais ça fait pas mal. En tout cas, cette année, nous, on en a eu pas mal, au point où il y en a qui poussaient encore il y a pas longtemps, parce que j'avais oublié. Enfin bref, mais la bonne terre est là. Et la parabole s'arrête là. Voilà, l'image que Jésus laisse. Puis on a un espèce d'interlude, où je vais pas rentrer dans le détail, verset 9, puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Beaucoup de monde écoutait, entendait, est-ce qu'il comprenait? Apparemment non, puisqu'après on lui demande des explications, hein, versets 10 et 12, et Jésus dit que certains vont comprendre, certains ont compris ce mystère du royaume, certains comprennent la venue de Christ, qui est là dans la personne de Christ, dans les œuvres de Christ, et c'est là qu'on réalise que seul un cœur préparé, tu parlais pourquoi on a été touché par le salut, seul un cœur préparé par le Seigneur peut recevoir cette vie, cette vérité que Jésus enseigne. Dieu prépare, Dieu connaît les cœurs. Et malheureusement, on voit que tous ne comprennent pas. Et à partir du verset 13, Jésus va donner l'explication de cette parabole. En tout cas, va prendre le temps d'expliquer, des versets 13 à 20, d'expliquer un peu le sens de cette parabole. Et il va commencer par le petit grain. Verset 14, je relis. Le semeur sème la parole. Donc la graine, c'est la parole. C'est ce qui est dit, la parole de Dieu. Et nous, en parcourant Marc, on sait que c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile, c'est l'avenue du royaume. Dieu venu parmi les hommes pour annoncer la libération, la réconciliation, le pardon des péchés. Jésus-Christ qui a payé. Ça, c'est la bonne nouvelle. La guérison est là. Etc. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la semence. Alors, on pourrait se dire, c'est qui le semeur? Alors là, dans le texte, on nous le dit pas, mais dans le texte parallèle qui évoque la même parabole dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit, il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc Jésus est en train de dire, celui qui sème, c'est Jésus. Alors là, on comprend, ok, Jésus, il est en train de parler, il est en train d'enseigner, il est en train de semer, de jeter du grain. Le semeur, c'est Christ lui-même. La bonne nouvelle vient de lui, de sa parole. Mais quand on continue Marc 16, c'est pour ça que je dis que c'est un texte qui encourage les disciples. Marc 16, verset 15, il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Allez parler de l'évangile. » Donc les semeurs, le semeur, effectivement, c'est Jésus, mais par cette image, Jésus veut dire « Tous ses enfants, tous ceux qui ont reçu, qui ont compris cette bonne nouvelle, sont appelés à semer, à partager cette bonne nouvelle. » Acte 1, 8, « Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. » Lorsqu'il viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, mes témoins, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités du monde. Il y a l'idée de semer. Vous êtes les semeurs. Oui, Jésus est le semeur, mais par extension, je suis le semeur. Vous êtes, chacun pour votre part, un semeur. Et Jésus veut nous encourager parce que il va expliquer que, en fait, on va semer sur quatre types de terrains. Quatre types. Parce qu'il y a quatre types de réactions sur ces quatre terrains. Alors, on va un peu le survoler, on va peut-être aller vite, mais on aura tous en tête des personnes qui peut-être illustrent ce type de terrain. Le premier terrain, le cœur dur. La personne entend, mais aussitôt, Satan semble enlever cette semence. Pourquoi? Alors le texte nous le dit pas pourquoi, voilà, tout de suite la graine est enlevée. Mais Matthieu 13 dit quelque chose dans le texte parallèle, lorsqu'un homme entend la parole du royaume de Dieu et ne la comprend pas, ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc il y a l'idée qu'elle ne comprend pas, qu'elle néglige ce qu'elle entend. Elle est peut-être hostile. Un homme au cours d'aide, elle se dit, bon, ça, ce qui est dit, ça me concerne pas, c'est pas pour moi. J'ai pas besoin de comprendre, ok, c'est bien, mais sans plus. C'est quelque part non à la grâce, non au pardon, ni à Jésus-Christ, ni à ce qu'il enseigne. Ça rentre pas, ça rebondit comme sur une terre dure, comme si de rien n'a été dit. Et c'est vrai, Satan, il y a dans d'autres, le malin, celui qui s'oppose à l'opposition spirituelle à Jésus, a le pouvoir d'aveugler les gens. Dans la volonté de Dieu, il y a parfois des gens aveugles. Et on connaît des gens qui, on a beau leur partager la bonne nouvelle et on se dit c'est quelque chose de beau que t'as besoin de saisir, on voit que ça rentre pas. Nous, au groupe de jeunes, en partageant entre responsables, on réalise il y a des jeunes, comme des plumes de canard, ça rentre pas. Ça fait ni chaud ni froid. On leur dit que on a une bonne nouvelle qui peut réparer notre mariage, qui peut réparer le mariage, qui peut vous donner une vie, une pleine, une réconciliation. Il peut vous dire vous allez être épanoui, vous allez avoir une sécurité, une espérance. Mais non, ça rentre pas. Un cœur dur. Premier terrain. On en côtoie tous. Le deuxième, c'est le cœur superficiel. Regardez verset 16-17, je le relis. De même, d'autres soivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. C'est clair ? Cœur superficiel. C'est intéressant. Ils ont le cœur touché. Ils ont le cœur touché. Ça bouillonne. Ils acceptent quelque part un certain nombre de choses de Jésus-Christ, peut-être en apparence. On voit l'exubérance. On a l'apparence d'une conversion, on se dit oui, radical, émotionnel. Ils sont pleins de joie, pleins de feu, pleins d'excitation. Et quand on voit parfois des gens qui sont comme ça, ils ont été touchés. J'ai compris, ça a changé tout. On se dit waouh, ils ont du zèle. En tout cas, ça a apporté du fruit. Tout de suite, bam. Ils sont reconnaissants pour tout, on les voit à toutes les rencontres, ils sont présents, ils partagent leurs expériences, ils partagent leur foi à tout le monde, ils ont un zèle. Et tout d'un coup, ça change. Verset 17, c'est ce qu'on a lu. Surviennent les épreuves, surviennent les difficultés. Il n'y a pas de racine. La semence a poussé vite, mais il n'y a aucune racine dans l'œuvre et de la personne de Christ, dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas puisé sur la puissance de Dieu. Oui, il y a eu une expérience spirituelle peut-être, mais pas un réel attachement au Seigneur. Quand survienne la persécution à cause de sa parole, ils sont aux abonnés absents. Une occasion de chute, on les voit plus. Terminé. Vous connaissez des gens comme ça? Qu'on a vu plein d'ailes? Ouais. J'en connais plein. Qu'on a cru qu'il y avait quelque chose. Et parfois, c'est vrai, on a annoncé une bonne nouvelle, juste une bonne nouvelle. On a vu, tu vas voir dans ta vie, ça va être génial quand tu reçois le Seigneur Jésus. Ça va être nickel. Mais c'est pas toujours leur rendre service parce que la parole de Dieu dit aussi que, accepter Christ, vient des difficultés aussi avec. Jean 15, par exemple, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. C'est Jésus qui parle. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Mais vous n'êtes pas du monde. Moi, je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Donc là, il est question de persécution, c'est ça. C'est qu'en fait, lorsqu'on professe la foi chrétienne, la personne de Christ, surviennent les difficultés. Et parfois, on ne comprend pas. L'apôtre Jean dira ceci, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé à faire qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. C'est vrai que on peut être nombreux. On peut être nombreux à louer, en tout cas donner l'apparence. Mais il n'y a pas de profondes racines qui ont été imprégnées, qui ont été creusées, qui ont été fondées sur la personne et l'œuvre de Christ. Alors la marque du chrétien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chute, qu'il n'y a pas d'absence, qu'il n'y a pas de moment de coup bas. Mais ça se comprend. On a tous des moments difficiles, mais que si on est un vrai chrétien, tôt ou tard, on revient à la parole de Dieu. On a des périodes de dévers. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est toutes ces personnes qui ont professé quelque chose, qui ont été tout feu, tout flamme, et qui partent, et qu'on ne voit plus, et qui n'ont plus aucun intérêt. Est-ce que c'est ce terrain-là? Bien évidemment, ça appartient à Dieu. Mais il n'y a pas de fruit. Le texte nous dit, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit qui dure. Troisième terrain, le cœur mondain. Comme les deux autres, hein, on reçoit la, ces personnes reçoivent la parole, il y a une conversion, elles semblent montrer qu'il y a quelque chose, qu'il y a une foi, il y a une impression de progrès. Mais très vite, étouffées. Et là, c'est même plutôt douloureux. Et moi, je donnerais l'excuse à ces personnes-là de monsieur et madame excuse, justement. C'est des personnes qu'on voit peu ou de moins en moins. Au début, on les voit partout, qui sont emballés, ils sont voilà aussi pleins de zèle pour le Seigneur, mais petit à petit, ils se mettent en retrait. On voit moins d'intérêt pour la communion fraternelle, on voit moins d'intérêt pour un temps autour de la parole, on voit moins d'intérêt pour partager leur sujet de prière, etc., etc. Écoute, j'ai du travail, j'ai pas le temps. Écoute, je suis fatigué, ma famille a des besoins, ma situation elle est compliquée, mes enfants, tu sais, je dois prendre du temps ici et là, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes de famille, j'ai des problèmes de travail, j'ai toutes sortes de problèmes, de soucis, mais voilà, mais t'inquiète, je vais bien. J'ai un problème de maison, voilà, j'ai un voyage de prévu, je dois partir en vacances. En fait, il y a un problème partout, et ils ont un cœur rempli d'épines, rempli de préoccupations du monde. Et en fait, ça révèle qu'ils aiment le monde, que cette parole de Dieu, que cette vie avec Dieu, elle est étouffée petit à petit par tout un tas de trucs de la vie. Et tous les trucs que j'ai dit là, mais on les a tous, hein. On a tous des problèmes avec notre famille, du boulot, etc. Tout le monde, on a des demandes, on a des préoccupations. Mais le problème, et le dit ce texte, c'est le souci du siècle. C'est des problèmes légitimes. Mais ces problèmes sont tellement de carrière, de chômage, de logement, de maison, de voiture, de vêtements, enfin voilà, de prestige, de reconnaissance, que tous ces problèmes passent avant une place à Dieu. Tous ces soucis prennent tellement de place qu'ils ne s'épanouissent pas dans le Seigneur. Il y a 100 choses avant. Le Seigneur à la place 99. Ils sont écrasés par les soucis. Non, Luc appelle cela les plaisirs de la vie. Des personnes qui me disent, je suis trop fatigué pour venir, ou je suis, voilà, à un moment donné, petit à petit, les soucis de la vie, les préoccupations du quotidien, se privent d'une nourriture dans la parole de Dieu, de la nourriture des frères et sœurs pour grandir. Il évoque aussi le problème de la richesse. Alors pas que la Bible condamne d'être riche, parce que bien sûr, il y a des chrétiens riches et qui ont fait beaucoup de bien, mais écoutez simplement comment Paul le dit à Timothée. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. On est dans la même idée. Ça étouffe. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. On a la même image. Ils ont les soucis du monde, ils ont le souci des richesses, des biens, etc. Et ça les a étouffés. Un terrain qui les étouffe. Un arbre mort sans fruit. C'est triste de voir aussi des gens comme ça. De voir des gens qui sont étouffés parce que les priorités, parce qu'ils n'ont pas su écouter comme Dieu demande d'écouter. Et bien évidemment, on a le dernier terrain. Hein. Le terrain fertile, très simple. Des gens qui entendent la parole, qui reçoivent la parole. Et Matthieu 13, je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui ont compris ce message de la bonne nouvelle. Ils comprennent, ils ont leur cœur touché devant la sainteté de Dieu. Ils savent que Jésus-Christ, c'est leur espoir. Bon, non pas moi, mais par Christ, on a chanté tout à l'heure. Seigneur, je te donne tout, prends tout, je me place sous la croix. Et le texte dit simplement, ces hommes-là, on voit, il y a des fruits. Il y a des fruits. Alors le texte dit pas les fruits. Pourcentage de 30, 60 ou 100. Il y a plusieurs sortes de fruits. Galates nous dit, le fruit de l'esprit, le fruit de cette terre fertile, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Romains 6, Paul dit dans Romains 6, 22, mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Il y a d'autres priorités. Le fruit, une bonne terre produit des fruits, un comportement, une attitude et un rejet de ce qui déshonore Dieu. Mais l'accent de la parabole n'est pas sur les quatre terrains. L'accent, il est sur semer. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à semer. Et Dieu, il est en train, Jésus ici, il dit, mais il y a quatre types de terrains pour qu'on ne soit pas déboussolés. Parce que c'est Dieu qui prépare les terrains. C'est Dieu qui prépare les cœurs. On était à notre pastorale sur la question de l'autorité, mais c'est Dieu qui produit la vie. C'est pas le groupe de louanges, c'est pas un orateur, c'est pas l'Église qui produit la vie, c'est Christ qui produit la vie dans les cœurs. C'est Dieu qui prépare les terrains, pas nous. Moi, ce que je fais, c'est simplement de semer. Je suis appelé à semer. Alors vous dites, je suis pas bon. Moi, j'ai dû planter du gazon un peu là dernièrement. J'ai mis un seau, j'ai essayé et puis un gros pâté là et puis là quelques grains. J'arrivais pas à répandre de façon uniforme. Enfin, je sais qu'il y a des trucs, mais une technique. Mais le texte nous dit, c'est pas si on a semé de trop ou si on a semé au mauvais endroit. L'idée, c'est de semer. Vous vous dites, je suis pas bon pour semer. Mais c'est pas le problème, c'est semer. Ça n'a rien à voir, on est appelé à semer. Oui, mais il n'y a personne qui s'est converti. Non, c'est pas la question. Parce que peut-être tu sèmes sur un terre qui est dur. C'est pas ton problème si le terre est dur, mais tu es appelé à semer. Semons avec ce que Dieu nous a donné. Je suis un mauvais semeur, mais je suis appelé à semer. Vous êtes peut-être, vous sentez pas capable de parler de cette bonne nouvelle, de parler de ce royaume, de parler de ce Jésus-Roi, etc. Mais nous sommes appelés à semer. Qu'importe si je suis un mauvais semeur. Ce qui nous fait arriver à la deuxième parabole de la lampe, et je vous propose de continuer. J'irai un peu plus vite. Verset 21. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? Mais n'est-ce pas pour la mettre sur son support? Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doit être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont on vous serait servi, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Bon, il y a beaucoup de choses, on pourrait... Mais ce que je retiendrai, c'est qu'en fait, on est appelé à faire connaître la parole. On est appelé à rendre visible cette bonne nouvelle. Regardez, au verset 21, il dit encore... Avec cette image de la lampe, il parle du même sujet, il parle aux mêmes personnes, et là il utilise l'image de la lampe à huile. Alors c'est pas celle-là qui est en photo là, mais qui était très courant. On n'allume pas une lampe pour la cacher sous un seau, c'est pas logique. Mais on l'allume pour la mettre en valeur, pour qu'elle illumine la pièce. Si on modernise, hein, on n'allume pas une lampe de poche pour la mettre sous la casserole, hein, mais on allume une lampe de poche parce qu'on veut éclairer, parce qu'on veut montrer des choses. Ou pour la cacher, on n'allume pas sa lampe de poche et on la jette sous le lit, on ferme la porte et on va à la cuisine. Non, c'est pas ça. C'est un non-sens. C'est pas le but de la lampe. Le but de la lampe, ça dit, elle est placée stratégiquement pour qu'elle l'éclaire. Et c'est une évidence. Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière. Quelque chose était caché et maintenant est lumière. On l'évoquait avec Marc 1. C'était qu'il y avait un avant et un après. Jésus est venu, le royaume est déclaré. Le message est appelé à être diffusé. C'est pas pour être caché, mais c'est pour être mis en valeur. Si on cache un trésor, si on veut protéger ses biens et qu'on cache son trésor, c'est dans l'idée de pouvoir le retrouver, de l'utiliser au bon moment. Et ici, Jésus est en train de dire, maintenant, c'est le temps de la lumière. La bonne nouvelle du royaume est maintenant affichée. Elle n'est pas à être cachée. Même si maintenant, pour 3 des 4 terrains, c'est refusé. Non, il faut placer sa lumière. Et on a cette même idée, aller dans le monde et proclamer la bonne nouvelle. Il n'y a pas l'idée, j'ai une bonne nouvelle et je la garde pour moi. Non, il y a l'idée de la diffuser, de la partager. Et Jésus se tourne vers les auditeurs, il leur dit, écoutez bien. Écoutez, c'est le temps de l'écoute. C'est le temps où ce que je dis n'est plus secret. Il n'est pas caché. Non. Il est semé et il est rendu visible. Et Jésus encourage, hein, dans les versets 24 à 25, il l'encourage à écouter, à avoir du discernement, à ne pas avoir cette écoute superficielle. Et quand il dit le verset 25, qui est à la fois un peu étrange mais vastement riche, il dit « On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Il y a l'idée que, mais en fait, si je réfléchis à la parole de Dieu, si je m'y nourris, si je l'écoute, mais en fait, ça va poser des fondements, ça va grandir, ça va porter du fruit. Mais ne sois pas un paresseux. Creuse, sonde, médite, réfléchis. Et les avantages sont énormes. Le semeur sème, la lumière brille et se répand. Alors pour l'auditeur, voilà, lorsque ce message est reçu, entendu, compris, partage-le. Troisième parabole. Mais là, on retrouve effectivement la parabole de nouveau de la semence, mais dans un autre sens. Verset 26, il dit encore, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. On est toujours dans la même idée. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, ok, on a un peu la même image, mais qu'il dorme ou qu'il reste éveillé nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis les puits, enfin le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car c'est le moment de la moisson. Encore une parabole. Et elle est très intéressante et qui est très encourageante parce qu'en fait, ça pousse tout seul. Voici l'histoire du semeur. Mais sans qu'il sache comment, c'est vraiment l'accent du truc, la semence, elle pousse. La plante va grandir. On sème et le semeur quitte son champ. Il va faire autre chose. Il va pas prendre une chaise pour attendre. Moi, on a le souvenir avec les enfants. On plante une graine et puis les enfants, au début, ils sont là, ils attendent à ce que ça pousse tout de suite. On a tous peut-être cette image où il y a même des histoires. Non, le semeur, il sait, ça va prendre du temps, je sais pas ce qui va se passer, mais ça va pousser. Il ne fait plus rien. En tout cas, le texte ne met pas l'accent sur ça, où il faut arroser et contrôler, non. Là, il y a l'idée, la germination arrive. L'attention est sur le grain et non pas sur le semeur. Qu'il dorme ou qu'il reste réveillé, l'agriculteur n'y pense plus. Mais cette semence produit un fruit. Et qui d'abord, on ne voit pas. Et la plante grandit. Et c'est vrai que quand on plante nos plantes tomates, là, quand on fait nos semis, moi je me demande toujours, est-ce que toutes ces graines vont marcher? Et souvent, on est stupéfait du résultat. Mais oui, à un moment donné, ping, ça sort. Et c'est tout petit, et d'un coup, deux jours après, c'est plus grand. C'est le mystère de la vie. La puissance invisible de la graine, une croissance qui pousse tout seul. L'agriculteur, le jardinier, vit pour le jour de la moisson. On vit pas juste pour le moment-là, mais on vit pour le jour de la moisson, pour récolter le fruit de son labeur. Alors, quel est le but de cette parabole? Elle est toute simple. Ben, c'est le comment le royaume grandit. Et ça grandit comment? Seul. Ça s'arrête pas. Avec étapes. Bien sûr, cette semence est liée parce qu'on a semé des graines. Mais comment ça pousse? C'est pas le problème du semeur. Ainsi en est-il du royaume. C'est simple comme parabole. Et un jour, ce sera visible à Elonou. On sème et la semence pousse dans des cœurs réceptifs. L'Église grandit. Et même si, et c'est là où cette parabole m'a encouragé, même si moi, individuellement, je vois pas beaucoup de croissance, je vois pas beaucoup de fruits, parfois. Mais la parole de Dieu, elle est là pour encourager ici les disciples. Elle va porter du fruit. Elle portera du fruit. Parce que c'est le mystère de la vie. De la vie qui est en Dieu. On est dans l'ère du temps de l'Église où on sème, maladroitement, on sème. On ne sait pas où tout cela va aller. Mais Dieu contrôle tout. Dieu contrôle les cœurs qui reçoivent la semence. C'est Dieu qui est à la manœuvre, qui produit la vie. Même si dans mon petit coin, j'ai pas tout saisi, j'ai pas tout vu ou pas voulu voir, le royaume de Dieu grandit, coûte que coûte. L'évangile, la parole de Dieu qui est semée, produit du fruit. Et ça ne dépend pas de moi. La force de la croissance, c'est Dieu qui contrôle tout. Et ça m'encourage. Parce que c'est vrai, quand on regarde individuellement à nos vies, on se dit, mais j'ai semé, mais je vois pas grand chose. C'est pas mon problème, c'est le problème du Seigneur. Alors oui, on peut prier pour que la terre soit réceptive. Mais c'est vraiment encourageant, et quand on se retire, quand on prend un peu du retrait, et quand on réfléchit, récemment un pasteur a partagé que sur les 30 dernières années, l'Église en France a été multipliée par je sais pas combien. Mais c'est vrai que nous, nos églises sont petites, on le voit pas. Mais non, l'église grandit. Et quand on a quand on prend le temps d'écouter les nouvelles, des missions et tout, non, l'église grandit. Il y a du boulot. Mais mon boulot, c'est de semer. Mon boulot, c'est de parler. Le cœur dur, épineux, etc., c'est pas mon problème, en fait. Mais je peux le présenter à Dieu, bien évidemment. Et à la fin, on peut dire, et à la fin, il y aura une moisson. Et la parole de Dieu le dit. Dieu va nous dire merci parce qu'on a semé et on n'a pas tout vu. Merci pour votre rôle d'avoir semé. C'est ensemble que nous sommes semeurs. Et un jour, Dieu recevra toute la gloire. Et enfin, je termine par la dernière parabole qui va aussi nous encourager, la parabole de la graine de moutarde ou du grain de senevé, un autre aspect du royaume que Jésus nous enseigne. Et verset 30, il dit encore « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu ? Ou par quelle parabole la représenterons-nous ? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte. On pourrait dire elle monte. Elle devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » C'est par beaucoup de paraboles de ce genre que Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Très intéressant. Ça pousse tout seul, mais ça pousse beaucoup. Cette parabole est tellement simple que Jésus non plus ne donne pas d'explication. Le royaume de Dieu, c'est une graine, une petite graine qui pousse et qui pousse tellement qu'elle va produire un arbre et qui va servir de refuge aux oiseaux. Ça, c'est l'histoire de cette parabole. Pourquoi ? Parce que Jésus est en train de rappeler à ses disciples et nous rappeler à nous que la croissance prodigieuse, que la vie de la bonne nouvelle, de l'Église, de la parole qui se répand dans le monde, elle est exponentielle. Un tout petit commencement. La plus petite des graines. On parlait des champs de tomates, hein, c'est petit une graine de tomate et on a plein de tomates. Mais c'est ça l'image. Un petit truc et ça produit la vie. Et les gens connaissaient cette graine à l'époque quand ils entendaient la graine de moutarde et ça, peut-être qu'effectivement, elle était vraiment plus petite que ceux qu'ils avaient en... Alors quel est le but de cette parabole? Elle est tout simple, hein. Le royaume de Jésus sur terre a commencé tout petit. Mais il prendrait avec le temps toute la proportion énorme et sera un refuge, une protection pour le monde entier. Petite illustration, hein, pour expliquer encore quelque chose qui est déjà facile à comprendre. Mais ceux qui font de la musique, hein, on a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais on a do, ré, mi, fa, sol, il y a 7 notes en fait. Hein, il y a 2 do, mais après il y a les petites variations. Mais avec 7 notes, on fait quand même une quantité astronomique de chansons différentes. C'est fou, hein. Je sais pas combien de milliards de chansons, de mélodies, avec 7 notes. On pourrait prendre la même chose avec l'alphabet. On fait tellement de mots, les mélange dans un autre sens, ça donne d'autres mots, et puis avec d'autres langues, enfin, c'est juste incroyable. Et ici, c'est la même chose. D'un petit truc, ça fait un truc phénoménal. Tout a commencé par l'apparition de Jésus, et on va, là, à Noël, on va s'en rappeler. Tout petit, une étable, au fond de Bethléem, les disciples, ils disaient, mais qu'est-ce qui peut venir de là-bas? De bon? Pas l'attendu, autour d'une bourgade perdue. Après, il a choisi 12 disciples. On se pose des questions si moi j'aurais choisi ces 12-là. Et pour arriver à quelques siècles plus tard à ce que nous voyons aujourd'hui, l'Église. Alors, on a un avantage, nous. On a 2000 ans d'histoire de l'Église. Et on voit que ce message, la bonne nouvelle, effectivement, hein, s'est répandu. On voit la progression du christianisme. Et si vous voulez savoir plus, parlez-en à Paul, hein, qui est un peu un connaisseur de l'histoire de l'Église. Alors bien sûr, tous ne sont pas d'authentiques chrétiens, mais il y a une croissance visible du monde, de cette petite semence, de cette venue de Jésus-Christ, un royaume qui s'est étalé. Matthieu dira cela, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. On a un rôle où Dieu souhaite nous voir entrer en tant que disciples, en tant que personnes qui ont été touchées par la bonne nouvelle. Et c'est quoi ce rôle? De semer. Et on va voir que ça va pousser. Pousser encore. Aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Nous dit Marc au chapitre 16, verset 15. Alors la question, Là, il est pour encourager les disciples, la question est pour nous. Est-ce qu'il va le faire avec moi ou sans moi? Moi, je me dis, c'est quand même génial de participer à cette merveilleuse aventure. Alors, quelle est la leçon, chère Mila, centrale de ces quatre paraboles, en fait? Alors, on aurait pu détailler beaucoup plus de choses, mais le but, c'est de partager le message de la bonne nouvelle, de manière assidue, patiente, de semer. Sachant que le résultat final de ce travail, le fruit de ce travail, dépend du Seigneur lui-même. Et ça viendra en son temps. Et ça se verra en son temps, à l'heure de la moisson. Semons, même si c'est pas bon, même si on n'est pas bon. L'important n'est pas tant le comment, même si on peut toujours mieux faire, on est d'accord. Parce que l'important, c'est là où elle tombe. Même si, je dis, oh mince, la graine est partie. Mais on ne sait pas ce qu'elle va. C'est le travail du Seigneur. Ne cachons pas cette bonne nouvelle. Et peut-être parfois on est timoré, on n'ose pas. Ayons plus de courage de manifester notre appartenance, notre identité en Jésus-Christ. Le royaume grandit, et même si je ne le vois pas, parce que ce n'est pas moi qui produis la vie. Et je trouve que c'est très précieux pour nous, ces paraboles, de voir cela, que ça grandit sous terre et qu'on ne voit pas. Parce que nos églises, parfois, elles sont pas très grandes, mais c'est pas grave. C'est pas le but. L'objectif, c'est d'être fidèle à Dieu et de nous attacher. Moi, j'ai pris l'habitude. Je sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a mis ça à cœur. J'ai une pile de mangas, le Messie, vous savez, des histoires là. Et puis, ces derniers temps, on se débarrasse de beaucoup de choses au bon coin. On vend des trucs. Ça part au courrier. Mais moi, systématiquement, bam, je mets dedans. Dedans, là, du coup. Et plusieurs ont déjà dit merci pour le petit manga en plus. Voilà, ok. Alors, je me débarrasse, mais en fait, je sème. Peut-être qu'un des colis va toucher quelque chose, quelqu'un. Ça peut devenir révolutionnaire dans la vie de quelqu'un, simplement. Parce que, voilà, j'ai fait ma part sur un petit détail du quotidien. Le royaume grandit, d'un début minuscule, d'un mot, d'une attention, d'un sourire, d'une lettre, d'une carte au voisin, enfin, j'en sais rien. Ce que le Seigneur vous mettra sur le cœur, semons, semons, semons. Oui, quelque temps après, les disciples vont rentrer dans des périodes difficiles, où Jésus va être arrêté, mis à mort. Mais Jésus voulait leur montrer que ce ne serait pas un échec, que à travers l'âme, sa mort, il y aurait la vie. Que Dieu a un plan pour le monde, un plan mondial, et qui va avancer de façon de plus en plus visible. La bonne nouvelle va se répandre. Je lisais tout à l'heure, ce passage de Marc 16, qui va se répandre, qui va toucher toutes les nations, et un jour, ce sera la fin. Le temps de la moisson. Le temps de la moisson. Et on sera émerveillés de ce que le Seigneur aura fait dans la vie des uns et des autres. Moi, je suis encouragé. Je sais pas vous. C'est encouragé de lire ces paraboles qui sont peut-être connues.